Donc, Eric nous a expliqué tout à l'heure que la Finlande est une terre de badge. Et il nous l'a aussi dit quand même que la Normandie également est une terre de badge. Vous voyez les drakkars normands, ce qu'il y a dessus, c'est des badges, c'est pas des boucliers. Hein, c'est bien une terre de badge. Et on va en le prouver tout de suite avec les trois interventions qu'on va avoir dans cette table ronde. Sylvie Siepli, qui est responsable des délégués aux innovations, chargée de mission, voilà, chercher le mot, aux innovations pédagogiques à l'IAE. François Millet, qui dirige le Dôme, qui est un living lab de la région cannaise.
J'ai pris du grade, je dirige pas le Dôme, mais.
Ah ouais, wow. Bon, il anime, c'est ça? Bon, tu animes le Dôme, c'est ça? Bon. Living Lab, où on sera demain. Et puis Philippe Petitqueux, qui lui est chargé des TIS à la DRAF de Normandie. Voilà. Et dans les trois cas, on va voir une expérience de mise en œuvre de badges qui sont tout à fait intéressantes. Donc je leur laisse la parole pour chacun une dizaine de minutes, et ce qui nous laissera le temps après de partager entre eux et avec vous.
Je vais faire court parce que maintenant vous connaissez très bien les badges. Comme le disait Pierre, je suis chargée de mission innovation pédagogique à l'IAE et je suis la directrice des études et responsable d'un master dans la formation à l'IUP Banque Finance Assurance qui forme les futurs banquiers. Dans le cadre finalement de formation en alternance pour lesquelles les référentiels métiers, je dois le préciser parce que c'est quand même important, sont définis et faciles à suivre. D'autant plus qu'étant en alternance, voilà, on les suit sur des compétences très précises. On voit dans le cadre de cette formation que la formation diplômante ne reconnaît pas toutes les compétences que développent les étudiants, mais je pense que c'est le cas aussi dans d'autres diplômes où on connaît bien l'étudiant et le métier sur lequel il va aboutir. Parfois, on a ce sentiment qu'on a un étudiant qui est très important pour nous dans la formation et pourtant il n'a pas de mention. On a aussi parfois le sentiment que cet étudiant va très bien réussir sa carrière professionnelle et pourtant il n'est pas le meilleur de la promotion, il n'a pas de mention. Mais nous, on a senti qu'il avait ce qu'il fallait pour réussir professionnellement parce qu'on suit cet étudiant depuis 3 ans, qu'il a réalisé des projets avec nous et qu'on voit bien qu'il y a des compétences qui sont essentielles aussi dans la réussite de son métier et qui ne sont pas évaluées par des notes. Donc c'est un peu le constat que l'on a fait. Et ce constat a été fait au moment où on nous a présenté les badges, enfin où on me les a présentés pour une autre expérimentation qui est réalisée à l'IAE pour motiver les étudiants qui sont inscrits dans les formations en e-learning. Voilà, parfois ces étudiants décrochent et on a mis en place un système de badges pour les amener à rester acteurs de leur formation. Et là, ça a été comme une évidence. Il m'a semblé que ces badges, bien évidemment, et après, je me suis renseignée, j'ai vu que c'était fait ailleurs, hein, j'ai pas non plus, j'ai rien inventé, étaient bien évidemment complètement adaptés à cette reconnaissance de ce qu'on appelle les soft skills que ben, l'on pouvait essayer finalement de les mobiliser pour essayer de compléter le diplôme avec la délivrance de ces compétences, alors douces ou soft skills, je vais utiliser. Voilà, je suis économiste de formation, je m'intéresse un peu au management, mais je ne vois pas, vous m'expliquerez peut-être après la différence. Oui.
On a qu'une demi.
Donc vous serez tous d'accord avec moi pour qu'on lui attribue le badge clarificatrice.
Voilà. Donc, comme vous le disiez, je vais rebondir et on va gagner à nouveau du temps. Ces soft skills, elles sont effectivement très recherchées dans le milieu professionnel. À diplôme égal, c'est souvent c'est les soft skills qui font la différence. Et il y a quelques travaux qui très clairement ont montré que sur les diplômes de sortie niveau master et grandes écoles, on avait des écarts de salaire considérables liés aux soft skills. Donc il y a une étude du CEREC, c'est l'étude de 2016 qui est très très intéressante sur le sujet. Ces soft skills, vraiment, on voit que sur les niveaux master, en tout cas, sont très certainement ce qui va permettre de faire la différence. Et c'est ce sentiment qu'avaient les membres, les responsables pédagogiques, les membres des jurys, quand on sent qu'un étudiant, on se dit, celui-là, il va réussir, il n'a pas de mention, mais on sait qu'il va réussir, on ne se fait pas de soucis pour lui, c'est parce qu'il a ses soft skills et que nous, on les voit également. Alors, ces soft skills, c'est la persévérance, l'estime de soi, la capacité à communiquer, la sociabilité, et puis une certaine attitude aussi vis-à-vis des risques qui va les amener à finalement s'engager dans des projets là où d'autres resteraient passifs. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait essayer. C'est une solution pour tester. C'est finalement l'essai. Et donc, mon équipe pédagogique a accepté de se prêter au jeu. Donc, 250 étudiants de la licence classique et licence professionnelle au master ont fait l'objet d'un test l'année dernière à partir d'une batterie de badges que l'on a mis en place pour repérer alors à la fois leur participation à des actions, leur inscription dans une démarche solidaire, et puis également le mérite qu'il pouvait y avoir derrière leur investissement et leurs études. Donc on a décliné cela en 12 badges. Je vais passer sur les détails de ces badges, mais qui nous ont permis, donc, dès la première année, d'attribuer donc, ces badges dans le cadre d'une démarche qui était à la fois initiée par les enseignants et également, puisque nous sommes en alternance, donc nous avons embarqué dans l'aventure les coordinateurs des centres de formation d'apprentissage qui, eux aussi, alors, sont complètement en phase avec cette approche et repère les compétences des étudiants. Donc il fallait qu'il y ait une synergie entre nous et qu'il n'y ait surtout pas d'incohérence. Ça, c'était très important. Les étudiants pouvaient recommander leurs confrères pour certains badges, notamment le badge solidarité dans un groupe. C'était eux les premiers à même de repérer cette compétence. Et puis, bien évidemment, l'étudiant lui-même, pour certains badges, pouvait candidater, notamment pour un badge que l'on a appelé le badge battant, mais qui est le badge de l'étudiant qui, malgré des conditions sociales ou des problèmes de santé, des problèmes familiaux importants, réussissait malgré tout à poursuivre ses études. Donc là, c'est l'étudiant lui-même qui se déclarait. D'ailleurs, grâce à peut-être la digitalisation et la distance et la proximité qu'il y a à la fois derrière ces outils, on a des étudiants qui nous ont fait des révélations auxquelles on ne s'attendait pas. Et je ne suis pas sûre qu'elles auraient été faites, ces révélations, dans un face-à-face classique. Tout a été coordonné par... l'année dernière, en fait, c'était moi, mais normalement, la vocation, c'est que ce soit le responsable pédagogique du diplôme, maintenant qu'ils ont tous été formés à l'attribution des badges, qui, au moment des jurys, coordonne la délivrance des badges de manière à ce qu'il y ait quand même une centralisation, on n'est pas complètement décentralisé pour l'instant, dans l'attribution des badges, de manière à s'assurer aussi de la cohérence de la délivrance des badges. Alors, sur l'année dernière, on a eu deux jurys de délivrance des badges à chaque semestre. Au total, 49 badges ont été distribués. Alors, comme on le voit sur ce tableau, il y a eu pas mal de badges qui ont touché la compétence communication, puisque on pousse beaucoup les étudiants à participer à des salons, à des actions de communication. Donc là, on a pu voir ce type de compétences à l'œuvre, mais on a aussi des étudiants qui se sont engagés dans des opérations qui étaient plus des opérations de solidarité, de prise en charge d'un groupe, de délégués des groupes, ce qui a permis de délivrer aussi des badges équipiers, des badges meneurs également. C'est les meneurs nous ont été présentés par les autres membres du groupe. Hein. C'est ceux qui ont permis à des projets d'être réalisés et qui ont été reconnus par les autres membres du groupe comme ayant été déterminants dans l'avancée d'un groupe. Et puis, quelques battants. Pour l'expérience de l'année dernière. Alors, cette expérience, nous la renouvelons cette année parce que le bilan a été plutôt positif. Alors, on a des étudiants qui étaient super engagés dans cette expérimentation. Ils se sentaient très concernés. Donc, déjà, ça a changé aussi un petit peu leur attitude. Le fait aussi de pouvoir nous recommander les autres élèves, ils se sentaient vraiment beaucoup moins passifs et vraiment acteur de la formation, mais jusqu'à la délivrance de la récompense, hein, ce qui d'habitude est de l'ordre uniquement du professeur qui va noter l'élève. Là, tout d'un coup, ils avaient leur mot à dire. Donc, c'était quelque chose qui les a beaucoup emballés. Alors, nous, la profession bancaire nous suit sur cette expérience puisqu'elle a proposé à notre association des anciens une bourse qui permet de prendre en charge les dépenses de certains étudiants qui auraient été repérés comme battants. Et puis, à travers cette expérience, on a aussi un gros réseau bancaire normand qui s'est rapproché de nous aussi pour discuter avec nous des badges, puisqu'ils ont le projet aussi de développer ce type de reconnaissance des compétences à l'intérieur également de leur établissement. Donc, ce qui permet d'avoir une cohérence entre nous avant qu'il soit dans le secteur bancaire et le secteur bancaire. Donc il y a de la continuité et on voit que sur cette problématique de compétences, de soft skills, on est vraiment complètement en phase avec les besoins, en tout cas nous, de la profession qui concerne nos étudiants, puisque tous ces aspects relationnels sont bien évidemment hyper importants et la capacité à s'intégrer dans un groupe et à porter des projets, c'est essentiel dans les entreprises, bien évidemment. On a fait évoluer les badges. Là, ce que je vous ai présenté, c'était la mouture de l'année dernière. Grâce à ce qu'on a vécu, on a vu qu'il fallait augmenter la proportion des badges ouverts à l'appréciation par les étudiants eux-mêmes. On a vu que ça, c'était central. Et puis que finalement, ils étaient mieux placés que nous, souvent, pour savoir qui méritait un badge ou pas. Et que ça changeait leur posture dans la classe. Donc, que c'était vraiment quelque chose d'important. Donc, on a renouvelé cette année sur le pôle banque et deux nouveaux diplômes du pôle management ont rejoint l'aventure, donc en marketing et en management de l'innovation. Et on a aussi engagé les étudiants qui sont dans un master ressources humaines avec nous pour évaluer l'expérimentation également. Hein, puisqu'on a mené l'expérimentation, mais maintenant il faut aussi l'évaluer du côté de ceux qui ont été diplômés et qui sont allés passer des entretiens en ayant sur leur CV ces notions de badge et qui ont questionné aussi les recruteurs. Donc tout ça va faire l'objet d'une évaluation cette année. Avec, je l'espère, un déploiement progressif en dehors de notre établissement, puisque ça serait la reconnaissance de l'investissement que nous avons réalisé avec Émilie sur ce dossier. Voilà. Je laisse la parole.
Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, je sais que je vais être très frustrant, mais je vous demande de garder pour vous vos questions jusqu'à la fin des trois interventions. Et on prendra tout à la fin. Voilà. Donc, je passe la parole à François Millet.
Je peux rester là, c'est bon ? Oui, je vais. Non, je vais. Merci, bonjour à tous. Déjà, merci du coup de m'avoir invité sur cette table ronde. Un, deux. Tant pis, vous m'entendez ou pas ? C'est bon ? Donc, j'avais prévu, moi, une présentation d'une demi-heure qui devait tenir en 15 minutes. Et donc, là, j'ai une présentation de trois quarts d'heure qui va tenir en 10. C'est parti. 5 minutes. Du coup, moi je travaille au Dôme, vous irez demain. Je vais essayer de passer rapidement. Je vais vous dire pourquoi des badges au Dôme. Au Dôme, qui est un centre de sciences de nouvelle génération, entre guillemets, grosso modo, on est comme la Cité des sciences, sauf qu'on n'est plus du tout comme la Cité des sciences. C'est-à-dire que là où la Cité des sciences fait des expos, des ateliers, et de la vulgarisation et de la pédagogie, nous, il y a 5 ans, on a dit... Avec la Cité des sciences, normalement, ça ne marche plus. Il faut qu'on change radicalement le mode de dialogue avec la population sur les enjeux de science et de société. Vous irez demain au Dôme. Je passe assez rapidement. Grosso modo, aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des projets, des vrais projets. C'est-à-dire, on va s'intéresser sur c'est quoi le développement de l'énergie hydrogène en Basse-Normandie. Et donc, on va inviter la population, des entreprises, des chercheurs, aussi des artistes. On va inviter les collectivités, bien sûr. Et c'est parce qu'on va mettre des projets, qu'on va imaginer des objets, des services, des usages, que... la vulgarisation, la médiation va se faire entre toutes ces parties prenantes. Donc en fait, on devient un espèce d'opérateur territorial de culture scientifique qui met tous ces gens-là autour de projets. Le but pour nous vis-à-vis de la population, c'est de se dire jusqu'à présent, on avait des personnes qui venaient nous voir, écouter une conférence d'un chercheur, super, faire une exposition, super, mais ils étaient là, ils étaient en mode récepteur. Et nous, on cherche finalement à faire passer les publics et les personnes avec qui on travaille une posture de récepteur, de découverte, petit à petit tester, puis devenir contributeur et pourquoi pas co-constructeur, voire même, allons plus ou moins long terme, être dans la co-gouvernance même de certains projets de recherche participative et d'innovation ouverte ici sur le territoire. Donc tout ce parcours, moi je ne sais pas comment on l'évalue aujourd'hui, je ne sais pas comment on le voit, mais c'est ça notre objectif à nous en tant que centre de sciences de Normandie, c'est d'amener une population à s'emparer des enjeux de recherche participative et d'innovation ouverte. Alors bien sûr, ça passe par différents types de projets, hein, de la conception de projets, ça passe aussi par des phases de prototypage, puis après il faut les développer, puis après il faut les déployer. On n'amène pas tous les projets au niveau du développement. Le Dôme, il n'a que 2 ans d'existence, donc on a certains projets qui sont prototypés, mis en test et qui se développent, mais on n'est pas encore dans un déploiement national et international. Et pour tout ça, on s'appuie notamment, pour que ça ait lieu, on s'appuie sur des communautés qu'on essaie de fédérer, comment est-ce qu'on travaille avec cet ensemble de communautés, et aussi sur des outils qu'on a. Alors on a des éléments de studio, on a des équipements, on a un lieu, on a aussi une communauté, un réseau national et régional, et puis on a un objet assez tendance quand même en ce moment, qui est un Fab Lab, donc un laboratoire de fabrication avec des machines-outils, où on peut fabriquer, prototyper des choses pour de vrai. C'est-à-dire que dès lors, je parlais d'énergie hydrogène, on voudrait fabriquer un démonstrateur d'énergie hydrogène, on peut, nous dans notre Fab Lab, faire venir des publics qui vont commencer à fabriquer, prototyper un certain nombre de choses. Participer, c'est bien, c'est chouette, et il faut participer, mais c'est un peu incantatoire. C'est-à-dire que nous, sur tout le temps qu'on a mis à se dire participer, ouais, mais qu'est-ce qui fait qu'on participe dans la vie? Je pourrais vous poser la question, à quoi vous avez participé le mois dernier? Dans quoi vous êtes engagé? Donc nous, on a fait tout un travail pendant les 5 dernières années, et c'est d'imaginer et de repérer les différents leviers qui fait qu'on participe. Alors, la rémunération, quand on est payé, c'est chouette. Voilà, on participe en nature ou en argent, ça dépend.
Là, ce n'est pas le cas.
La question du divertissement. Je sais que beaucoup d'entre vous sont venus ici pour se divertir. Qui fait que vous participez, vous êtes là pour ça. Moi, je viens parce que je viens pour me divertir. Ce qui nous intéresse, nous, plus comme levier dans un lieu comme le Dôme, où on est un lieu d'apprentissage informel, pour revenir ici par rapport aux compétences douces, mais on est un lieu d'apprentissage informel, c'est plutôt jouer sur les leviers justement de l'apprentissage, sur des leviers de représentation aussi. C'est-à-dire, il y a des personnes qui... Voilà, on peut... C'est des leviers. Là, je suis ici en représentation devant vous. C'est quelque chose qui fait que je participe. Si j'avais dû écrire un article qui serait passé dans une revue obscure non lue, peut-être que j'aurais pas passé autant de temps à préparer des slides, ce genre de choses. La professionnalisation, c'est-à-dire, voilà, on parlait des questions d'insertion professionnelle, comment ça met des personnes sur un parcours professionnel, et aussi des relèves de la conviction. Je pense que tous ici, on partage aussi un ensemble de convictions sur les valeurs de l'apprentissage, de l'éducation et autres. Donc, ce sont des leviers de la participation. Et tout ça, nous, ce qu'on défend, c'est que ça produit de la valeur. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, une action culturelle, ça produit du supplément d'âme, ça produit... Qu'est-ce que ça produit, une action culturelle? Du beau, du bien, voilà. Nous, ce qu'on défend, c'est que ça produit quelque chose qui relève de ce triptyque qu'on présente là. C'est-à-dire que ça produit de la connaissance, sous la forme de nouveaux articles, de nouvelles formations, de nouveaux tests réalisés, ça produit de la donnée, toutes ces activités. Ça produit du social, c'est-à-dire que ça produit de nouvelles relations, ça produit de nouveaux services, ça produit de l'insertion professionnelle et de la mise en mouvement aussi de jeunes, parfois en rupture professionnelle, et ça produit du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on génère des nouveaux produits, on génère des nouveaux professionnels aussi qui arrivent sur le marché. Donc tout ça, c'est un ensemble de production de valeur qu'on cherche aussi à évaluer et à identifier. Parce que vous voyez bien que dès lors qu'on est une association, un établissement culturel, on doit se prévaloir de tout ça. C'est-à-dire que nous, on en avait un peu marre aussi qu'on nous dise combien vous avez fait de public à la fin de l'année. Ben, on a fait 100 000, ok. Mais 100 000 qui sont venus passer 5 minutes sur votre site ou 100 000 qui sont venus passer 5 jours avec vous in situ à faire des choses pour de vrai. on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose dans le rapport. Donc on cherche des outils aussi pour témoigner de l'efficience de notre activité. Et tout ce que je vous dis là, ce n'est pas inventé ex nihilo, on l'a fait dans le cadre d'un programme qui s'appelait le programme Inmediates. On l'a fait justement avec la Cité des Sciences, la Casemate à Grenoble, Cap Sciences Bordeaux, les Sciences Animation et l'Espace des Sciences à Rennes, qui sont aussi eux dotés de ces outils-là. Un petit clin d'œil quand même aux amis de la Casemate qui viennent se faire cramer leur Fab Lab. Donc ce n'est pas aussi des choses qui laissent complètement... de côté, ça c'est pour le... Voilà, un petit clin d'œil quand même. Et puis ça, je me suis rendu compte, c'est une diapo que j'ai rajoutée tout à l'heure, je me suis rendu compte que pendant qu'on faisait tout ce projet-là, pendant les 5 ans, moi j'avais à gérer un groupe au niveau national, et vous voyez ces cartes, en fait, c'était des choses qu'on se balançait comme ça, de temps en temps, dans notre groupe. Et donc, tu avais une carte, par exemple, alors là, je ne sais pas si vous les voyez, la première en haut, c'était un artefact magique, qui était le parchemin de l'appel d'offres. C'est-à-dire que le parchemin de l'appel d'offres, c'est normalement... Oh, pardon. On était capable de voir celui qui avait cette carte-là, c'est-à-dire qu'en fait, il savait ce que c'était qu'un vrai appel d'offres ou un faux appel d'offres. Vous aviez aussi le spectre de l'incarnation de la deadline, c'est-à-dire les gens qui maîtrisaient bien les deadlines, rapport de choses. Vous aviez aussi le pseudo-poulpe de traduction de François Millet, c'est-à-dire les gens qui arrivaient à me comprendre. Quand je parlais, j'expliquais des choses, ils avaient fait le... Voilà. Donc il y avait des risques d'AVC, ce genre de choses. Il y avait aussi le rangement occulte, c'était la capacité d'avoir un rangement... Un bureau rangé, mais malgré les apparences. Et puis, il y avait des petits chiffres. Donc, vous voyez, il y avait des sorts, des artefacts, des objets. Et tout à l'heure, j'ai réalisé, parce que en rigolant, je montrais ça à Philippe, qu'il y avait des choses avec marqué C. Et C, en fait, ça voulait dire compétence. Donc, ça, en 2013, on était déjà en train de s'attribuer des éléments de compétence du genre « je sais parler éducation nationale ». Ça, c'est quelque chose, dans le domaine de l'association, c'est compliqué. Ou alors, « je sais négocier avec les collectivités territoriales ». D'accord ? Voilà. Et puis il y a aussi faire des top 5, ce genre de choses. Ce qui fait que je vais vous présenter un rapide top 5 derrière, qui présente finalement toute la démarche de badge que nous on a fait dans le cadre du Turfu Festival, qui a été monté avec Casus Belli, un habitant du Dôme, et puis pour lequel on a eu le soutien aussi de Philippe, de Badgeon la Normandie, et puis aussi du CEMU avec Émilie, qui nous ont accompagnés là-dessus. Donc on a créé des badges, et c'est un peu cette anatomie du badge que je vous présentais encore plus rapidement que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà, les badges, grosso modo, qu'on a créés, s'articulent tous autour de ces choses-là. Je vais décliner en top 5, du coup. Donc, il y a une catégorie de badges. On a créé 4 catégories de badges, c'est-à-dire des expériences, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Et ça, aujourd'hui, on se rend compte que ça recouvre tout ce qu'on peut dispenser comme badge au niveau du Dôme. Donc, les expériences, voilà. C'est juste, tiens, je suis venu, il s'est passé ça, je peux témoigner d'une expérience. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Il n'y a qu'un seul badge savoir-être, il y en a 33 autres des badges dans toutes les catégories. Ce n'est pas anecdotique, je n'ai réussi à identifier qu'un seul savoir-être qui pouvait être dispensé là-dessus, parce que c'est un boulot énorme. Je ne vous cache pas qu'on a tout pondu, tous les badges en un mois pendant la période de l'été et tout ça. Donc c'était un peu. On s'est dit, allez, on le fait, faut qu'on s'y colle, qu'on essaye, avec toutes les remarques et critiques que pourrait nous faire Sèche par rapport à ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on s'est dit, allez, on inonde, et en inondant, on verra bien, nous déjà, comment ça nous oblige à réfléchir, comment ça nous oblige à les livrer, comment ça nous oblige à faire plein de choses. C'est-à-dire qu'on s'est dit, allez, on s'y colle, ça ne sert à rien de penser, on sait ce qu'on voulait en faire, et puis ça impliquait plein d'autres personnes. Il y avait aussi un niveau d'expertise. Donc le niveau d'expertise, vous voyez, il y a les petites ailes de chaque côté du badge qui peuvent augmenter ou diminuer. Et en fait, c'est vous retrouvez là-dedans le niveau de découverte, de test, d'initiation d'amateurs et d'experts. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans un Fab Lab, si on veut commencer à utiliser une imprimante 3D, il faut être au niveau initié. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu le badge initié, enfin du moins, c'est ce qu'on vous réfère. Si vous n'avez pas le badge initié, vous ne pouvez pas commencer à vous en servir. Il faut au moins que vous ayez suivi une formation qui est initiée. Après l'amateur, c'est-à-dire qu'on pourra vous laisser tout seul dedans. Et l'expert, c'est qu'un jour, le Fab Manager qui gère le Fab Lab n'est pas là, et ben vous pouvez le gérer tout seul. Grosso modo, vous n'avez pas besoin qu'il y ait quelqu'un chez nous. Donc tout de suite, nous, il y a un usage derrière dans le fait d'attribuer ces badges. Et puis nous, on a une plateforme qui s'appelle Fab Manager, justement, qui relie en fait plein de Fab Labs partout en France, et on commence à se dire, en fait, ce qui serait cool, c'est que ce niveau amateur et tout ça, on arrive à dire comment c'est, et que quelqu'un qui vient de Grenoble ou quelqu'un qui vient d'ailleurs en France, parce qu'on a cette plateforme Fab Manager qui pourrait finalement nous permettre de relier tous ces gens, et ben le badge, il est valable partout, selon ces mêmes critères. On a aussi un degré de participation, c'est-à-dire que sur le volet, autant sur des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire, on peut mettre comme ça des niveaux. Ce qui nous intéressait aussi, c'était au niveau de l'expérience, à quel niveau d'expérience je suis venu. Par exemple, vous ici, vous êtes venu découvrir, peut-être en partie tester, mais vous n'avez pas forcément, vous qui êtes ici, contribué à ce qui était dit ici. Donc on a tous, au sein d'une même expérience, pas forcément le même niveau d'implication, le même niveau d'activité, et c'est intéressant de se positionner par rapport à certaines activités. Donc on garde toujours à chaque fois 5 degrés, finalement, d'évolution au sein d'un même badge, sachant que pour un même badge, j'y reviendrai, mais un badge n'a pas forcément tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un badge qui va être créé, il n'a qu'un seul niveau, et ce n'est pas grave. D'accord ? 2 minutes encore ? Oh, ça fait super.
Et puis je vous ai parlé des différents niveaux aussi où on se trouvait. Ben, en fait, ces différents niveaux, on peut les trouver. Donc on a des badges qui sont des badges de conception, des expériences de conception ou des expériences de prototypage. Et à l'avenir, on va avoir des badges de développement et pourquoi pas de déploiement. Juste aussi, je vous présente l'intitulé. Pourquoi ? Parce qu'une question qu'on s'est posée, c'était de... En fait, tout ce que je viens de dire, vous retrouvez tout dans le texte. C'est-à-dire que quand on les a appelés, du coup, c'est bien le badge d'expérience, et bien du prototypage de ce textile en co-construction. Donc on arrive à retrouver textuellement toutes ces choses-là, ce qui fait que même au niveau hashtag, on l'a. Ce qui fait que nous, ce qui m'intéressait, c'était, OK, je veux revoir tous les badges de test, donc potentiellement tous les testeurs, où ils sont. Et je pourrais avoir à l'instant T tous mes testeurs. Et puis voir, tiens, ils sont où tous mes co-contributeurs ? Est-ce que j'ai les mêmes ? Est-ce que j'ai les parcours ? Donc tout ça, aujourd'hui, on n'a pas encore toute la métadonnée, mais il faudra qu'on vienne vers Eric pour lui dire, hé, j'ai besoin de ça comme données pour pouvoir jouer avec. Mais voilà un petit peu comment on l'a pensé. Puis le petit intéressant aussi, c'est qu'on a essayé de travailler sur du langage inclusif et épicène. C'est-à-dire qu'effectivement, on met des points E et ce genre de choses pour, voilà, c'est un choix, en tout cas, pour ne pas dire que ce n'est pas ni fille ni garçon. Et dès lors qu'on est dans un intitulé de badge, on parle de ce badge reconnaît que la personne bénéficiaire. On ne dit pas le bénéficiaire. La bénéficiaire, c'est une personne bénéficiaire, donc que ce soit homme ou femme. Voilà, c'est un petit clin d'œil, mais ça nous semblait intéressant de préciser, surtout dans les démarches dédiées au numérique, les makers, les Fab Labs, toutes ces choses-là qui sont assez genrées quand même. On arrive à ouvrir quelque chose de différent. La suite, c'est quoi ? Alors, c'est que nous, on essaie d'analyser un petit peu. Voilà ce qui était diffusé, nous, dans le cadre du Turfu Festival. Il y avait 12 ateliers pendant toute la semaine, chaque atelier avec une affiche qui était posée comme ça, qui disait voilà les badges que vous pouvez avoir, et puis vous flashez ici, et puis vous pouvez prenez un selfie, parce que des fois il faut un selfie pour avoir votre badge. Et puis on a une relance par mail qui était faite à chaque fois. Associé à ça, on a fait deux visuels, là aussi en dialogue du coup avec l'université, la DRAF, Casus Belli, et puis le Dôme, qui disait c'est quoi un badge ? Donc ça s'est affiché dans tous les ateliers. Et puis, comment avoir mes open badges. Donc ça, c'est des documents, si vous voulez, on peut vous les envoyer, ils sont disponibles. Ils ont été en partie hackés, détournés, même ici, sur ce que vous retournez à côté. Puis sur les premiers tours, du coup, on a 280 participants aux ateliers sur le Turfu Festival. Donc sur 12 ateliers, il y a eu 31 badges diffusés. Il n'y en a que 30 qui ont été demandés. Celui sur la physique corpusculaire n'a pas été demandé. Et pourtant, le symbole est tout ça. Enfin, 98 bénéficiaires, donc 98 personnes qui ont demandé du coup les badges, 160 demandes, parce qu'effectivement on pouvait demander plusieurs badges, et il y en a 41 qui ont été faits sur le week-end en fait, pas forcément du coup sur des ateliers mais sur d'autres choses, et on a quand même du coup d'accepter 52% sur les 48, et surtout on se rend compte que ce qui marche c'est quand on les relance par mail. C'est-à-dire que tout ce qui était fait in situ, en dehors du week-end, on disait « demandez votre badge, allez-y, rentrez, c'est ici, machin, pour dire que vous êtes venu. » Si on ne prenait pas les gens en leur demandant de le faire in situ avec une tablette, ce qui marchait, c'était derrière « et vous avez participé, si vous voulez, vous pouvez demander ces badges-là. » Donc on ne leur disait pas par mail, c'était pas une demande adressée directement, on leur disait « vous pouvez cliquer là, si jamais vous voulez demander de badge. » Donc qu'ils cliquent, puis qu'ils demandent le badge, puis une fois qu'ils avaient demandé le badge, d'accepter le badge. Donc vous voyez tout le cheminement. Donc les 85, enfin le 52% est assez intéressant aussi. Quelques questions qu'on se pose dans les 2 minutes qui me restent, même pas d'accord. C'est, du coup, est-ce que tous les niveaux ils existent pour un badge ? C'est pas sûr. Notamment des badges de savoir-être. On est expert en savoir-être ou pas expert ? Cette question du niveau. Comment est-ce que un badge il a toujours des niveaux ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Moi, je serais plutôt du genre à dire oui, mais ça peut être d'autres choses. Comment ne pas rejouer la carte de la compétition aussi au travers des badges ? Le challenge, oui, la gamification, oui, ok, jouer sur des badges very rares, mais la compète, ça s'interroge. Et puis on se rend compte aussi sur les badges qui ont été faits, du coup, de savoir et tout ça, qui ont été délivrés. Comme nous, on ne voulait pas non plus passer notre journée à cliquer puis revalider tout derrière, on avait mis un très faible niveau d'exigence. C'est-à-dire que c'était beaucoup des badges de découverte ou test. Il y avait très peu de « ouais, je suis un expert de physique corpusculaire ». Donc c'était des choses qui demandaient peu d'implication, peu de validation. Et finalement, les évaluations qu'on a, comme c'est des badges de faible niveau, donc une faible qualité de badge, et on a un faible accueil, c'est-à-dire que dans les façons d'évaluer les badges, c'est très faible. Les badges qui sont les plus évalués, c'est en fait les badges d'expérience, ceux qui n'attestent pas de compétences, mais qui témoignent plus d'un engagement individuel. Voilà. Et puis les autres qui sont les mieux évalués, c'est ceux qui sont déjà en lien avec des communautés, exemple OpenStreetMap, qui bénéficient déjà, les gens qui participent à OpenStreetMap ont demandé un badge OpenStreetMap, et eux disent « ah, je suis content, j'ai eu un badge OpenStreetMap ». Donc on est déjà dans des comportements individuels qui relèvent d'engagement, de motivation, de collectivité. Donc on voit bien, nous, notre but, c'est les usages qu'on veut créer maintenant, et j'arrête, c'est on veut lire le parcours des personnes là-dedans, on veut voir qu'est-ce qui marche comme levier, je vous ai parlé de ça au début, et puis c'est de réinventer tout ça derrière. Juste une conclusion, parce qu'Emilie m'a dit, faut que tu en parles absolument. On est aujourd'hui sur un parcours d'insertion professionnelle. C'est pas de ma faute, c'est la faute à Emilie. Avec du coup la mission locale, l'école de la deuxième chance, du coup, pour travailler. Je sais qu'il y a des collègues dans la salle qui sont là, qui font travailler des étudiants en licence informatique avec des personnes de mission locale et d'école de la deuxième chance pour inventer des badges et dans un travail d'insertion professionnelle. Donc une douzaine de badges, c'est vraiment un programme de médiation et ils ont récupéré, même si on s'est dit, allez, on fait des expérimentations séparées, ils se sont aussi réappropriés les questions de savoir, savoir-être, savoir-faire. Donc il y a aussi chez nous une convergence finalement sur cette nomenclature. Donc des badges qui attesteront le fait de comment on collabore, comment on fabrique et comment on documente. Et puis voilà, du coup, nous, dans la foulée, c'est l'accompagnement personnalisé. Ce matin, j'avais une réunion avec un service civique qui me dit, moi, j'aimerais bien être chargé de projet plus tard. Je lui ai dit, bah, écoute, tu pars en avril, on se refait un point et tu vas me dire, on va traduire ça en badge. Elle va construire son parcours individuel de formation au sein de notre structure qu'elle va essayer de traduire en badge à la fin de son parcours en tant que service civique. Et ça, enfin, nous, ce qu'on pressent, c'est ce que disait Serge tout à l'heure, c'est que nous, en fait, délivrer des badges pour les compétences, ce n'est pas notre sujet à nous, acteurs culturels. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on a une cartographie de toutes les personnes qui sont venues chez nous, comment on irrigue sur un territoire, comment un lieu comme le nôtre, il fait sens sur un territoire comme la Normandie. Comment des personnes qui sont venues chez nous, elles peuvent rechercher d'autres collègues. Comment est-ce que ça crée des communautés, comme vous l'avez dit. Comment ça participe d'une orientation pédagogique. Comment ça crée un réseau social. Comment moi, demain, je peux appeler tous les gens qui ont la carte... Voilà, on blaguait tout à l'heure sur des badges, mais sur la badge, j'ai participé ici aux runes et puis on crée un espace de discussion entre nous. Nous, il n'y a que l'usage qui nous intéresse et donc on engage une démarche de Living Lab, justement, de création d'usage et de services. On a déposé un projet avec la Chambre des métiers, avec en soutien du coup aussi avec la CRAN et Philippe avec la DRAF. On travaille aussi, j'ai oublié tous les partenaires, mais il y a Canopée dans la boucle, la CCI ajoutée, les services civiques. Donc on espère être lauréat de ce programme pour imaginer c'est quoi les usages que je viens de vous présenter. J'ai à peine fait 5 minutes.
Ouais, merci François d'avoir répondu aux doubles injonctions, les miennes et celles d'Emilie. Et donc je passe la parole maintenant à Philippe.
Très bien, merci. Moi, je vais faire ça en 5 minutes. Alors, je vous préviens, j'ai le diaporama le plus pourri de la journée. Je suis totalement nul en diaporama. Alors, je ne vais pas vous présenter des badges en particulier, mais plutôt un peu l'historique de Badge en la Normandie et l'approche territoriale de ce projet. Ah oui, c'est à moi de cliquer. Donc, je vise ici. Alors, rapidement, donc, je suis Philippe Petitqueux, délégué régional au numérique pour l'enseignement agricole. Et on travaille avec mon collègue chargé d'ingénierie, avec qui on présente généralement ces diaporamas, Emmanuel Bon, qui n'est pas là aujourd'hui. Nos missions sont d'accompagner les établissements sur leur transition numérique, pédagogique, agroécologique. L'origine du projet, très simplement, c'est le plan stratégique de notre direction générale enseignement-recherche, qui écrivait, entre autres, de mieux accompagner le projet personnel et professionnel, travailler autour des questions d'encrochage, non dit encrochage scolaire plutôt que lutter contre le décrochage, l'estime de soi, travailler sur l'intégration sociale et professionnelle des jeunes, et relancer l'innovation pédagogique. Donc nous nous sommes mis en recherche d'outils innovants pour la formation tout au long de la vie. On sait... bien entendu intéressé au e-portfolio, etc. Et puis, par sérendipité, on a découvert ces open badges et on a décidé de s'y intéresser d'un peu plus près. Au niveau du point de départ pour l'enseignement agricole, on avait une diversité importante de contextes d'apprentissage, de nombreux groupes informels, les rencontres riches entre enseignants, professionnels et apprenants dans nos établissements. On a les trois voies de formation. Et de nombreuses capacités non valorisées dans les champs de l'agroécologie, l'engagement citoyen, développement durable, animation des territoires. Donc beaucoup de choses qui n'étaient pas valorisées ou mal valorisées et qu'on voulait rendre visibles et actionnables. Donc en faire quelque chose. Le premier badge, quand même, on a découvert les badges, on s'est dit, bah, tiens, on va émettre des badges. Hein. C'était le premier réflexe et on va créer un badge qui vient attester... d'un travail réalisé par des groupes d'élèves et des enseignants autour d'un jeu sérieux de simulation de négociation climatique, donc la COP21. Donc on a créé notre badge, on était tout fiers, émis par la DRAF, etc. Et puis on l'a émis. Mais comme vous l'a dit déjà Serge et puis Eric, lorsqu'on émet le badge comme ça directement, on a très peu de taux de... de bénéficiaires qui récupèrent le badge. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a une faible compétence numérique chez beaucoup de nos apprenants. Il y a la gestion du courrier électronique. Il y a une faible connaissance également des enjeux de la formation tout au long de la vie. Ce n'est pas encore dans notre culture, ça reste un concept vague. Et surtout, pas de connaissance des open badges. Donc on s'est dit, on s'y est mal pris, on va commencer plus sérieusement et on a frotté la lampe, c'est-à-dire qu'on a demandé, au fait, la lumière est arrivée, et Serge, en fait, c'est Serge hein, qui est sorti de la lampe et qui nous a... Et qui nous a, à l'occasion de la première conférence qu'on a organisée en mai 2016, dans l'hémicycle du Conseil régional à Rouen, qui nous a en fait expliqué les enjeux de la reconnaissance et que surtout que les open badges n'étaient pas simplement des attestations numériques et qu'en fait, il ne faut pas simplement créer des badges dans son coin, mais on ne conçoit pas un badge, mais on conçoit l'écosystème du badge. Et que il valait mieux, après réflexion, qu'on parte sur une approche territoriale plutôt que de rester dans une démarche où on était simplement au sein de la communauté de l'enseignement agricole. Donc on a été rapidement soutenu par l'Université de Caen, l'IAE, le CEMU, en fait, avec qui on avait déjà communiqué un peu et qui sont venus témoigner des expériences qu'ils débutaient aussi sur les badges. Vous en avez eu la présentation tout à l'heure. Grâce à cette présentation... Et cette journée, on a compris le potentiel immense en fait, des open badges, que ça soit sur la validation des acquis de l'expérience, le fait que ça puisse capturer les apprentissages là où ils se passent, que ce sont aussi des vecteurs des valeurs de l'émetteur ou de la communauté qui émet des badges, que ça crée des liens entre les bénéficiaires d'un même badge, que ça permet de rendre visibles des compétences qui ne sont pas visibles au sein des organisations, des associations, des entreprises, et faut que je regarde à droite, et ça permet aussi de rendre visibles des pratiques hein, qui se passent sur le terrain à la manière de la cartographie qu'on peut faire sur OpenStreetMap. Donc, on a décidé de construire l'écosystème. On était en 2016, on a bénéficié des années d'expérience du monde plutôt anglo-saxon, puisque les badges ont démarré en 2012, donc on avait la chance d'être en contact des meilleurs experts grâce à Serge et puis la communauté qui s'appelait la Badge Alliance à l'époque. Et donc on a bénéficié de cette expérience pour plutôt partir sur une démarche territoriale. Comme on était sur des questions de travailler sur l'employabilité, travailler sur la formation tout au long de la vie, travailler sur... rendre visibles des compétences. En fait, on a travaillé sur le concept de territoire apprenant. Et on s'est dit qu'il fallait travailler sur notre territoire. Et donc, les membres fondateurs de Badgeon et Normandie, c'était d'abord donc, les établissements, l'enseignement agricole public et privé, la chambre régionale qui nous a rejoints, et puis l'enseignement supérieur privé, je l'ai déjà dit. On a décidé en fait, d'écrire un projet commun, qu'on a publié sous forme de déclaration de lancement à l'ensemble de nos partenaires. Donc quatre axes autour desquels on voulait collaborer, autour de la personne, accrochage et réussite scolaire, estime de soi, autour de l'emploi, du territoire et du numérique. Avec des buts communs, faciliter la reconnaissance et la valorisation des personnes et de leurs compétences, des apprentissages formels et informels, préparer les apprenants à la formation tout au long de la vie, identifier des compétences émergentes, les connecter avec le marché de l'emploi et mettre en œuvre des outils numériques pour favoriser la capacité d'agir des apprenants. Donc, on a la chance, on est sur un territoire à taille humaine. Si on avait été en Aquitaine, ça aurait peut-être plus, Nouvelle-Aquitaine, ça aurait été peut-être plus compliqué. Mais on s'est dit, la Normandie, c'est un territoire qui est encore à taille humaine. Et... sur ces questions d'emploi, de formation, le conseil régional était pour nous le meilleur interlocuteur. Donc on a beaucoup communiqué avec le conseil régional, parce que notamment il pilote le service public régional de l'orientation. Donc si on veut travailler par exemple sur des badges qui visent à renforcer l'employabilité, à travailler avec les employeurs pour identifier des compétences, eh bien il n'y a rien de tel que de travailler avec le conseil régional qui lui est en mesure de rassembler tous les acteurs, plutôt que d'aller les rencontrer un par un. Donc on a été dans une stratégie de travailler avec des partenaires, de les convaincre, de communiquer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier soutien, ça a été CEMU, il y a eu Université de Caen. Et puis rapidement, on a eu un réseau d'associations. Tiens, j'ai oublié d'enlever la traduction. Toute l'éducation populaire était aussi très intéressée, parce que ça faisait très longtemps qu'ils cherchaient des outils pour valoriser ce qu'ils font et valoriser les compétences, notamment transversales ou clés, qu'obtenait leur public. Les Greta se sont joints à nous récemment, le Centre interinstitutionnel des bilans de compétences de l'Eure, le réseau Canopé de Normandie. Et Cette approche nous permet, comme l'a dit Eric, d'avoir des économies en termes de communication, en termes d'organisation de formation, de conférences, de pouvoir diffuser le message des Open Badges et de la reconnaissance sur le territoire. Donc on a travaillé sur un logo. On n'est pas des pros, hein, c'est un premier logo, mais on est parti sur... Il plaît, il y en a qui l'aiment bien. Il plaît à l'étranger. Hein. Il plaît à l'étranger, mais bon, on n'est pas très fort en graphisme ni en diaporama, enfin moi surtout. Et on a travaillé beaucoup sur l'identité normande. On s'est dit, on est sur le territoire, autant travailler sur l'identité normande. On a donc créé un logo qui est ce qu'il est. On a joué sur nos valeurs, sur nos forces. Et puis on a créé un site web. Hein, voilà. On a décidé avec nos partenaires et membres de réseau Badgeons la Normandie de travailler en mode sous-projet pour que chacun puisse avancer à son rythme. Donc on a au niveau de l'enseignement agricole, nous c'est plutôt la thématique engagement citoyen, apprentissage informel. Les badges de l'agroécologie au niveau de la CRAN, de la Chambre régionale d'agriculture, sur reconnaissance et valorisation des pratiques en agroécologie. Avec le Conseil régional sur les politiques de la jeunesse, le badge des Fab Labs, les badges pour reconnaître les compétences clés transversales, ça c'est plus les réseaux APP ou Ligue de l'enseignement, et avec le service, avec la direction de l'apprentissage du Conseil régional, on travaille actuellement sur la transition numérique de l'apprentissage avec un système de badges. Les actions en 2017 de notre réseau, ça a été le Turfu Festival dont on a parlé François, c'était le 6 avril la deuxième conférence organisée à Caen avec le lancement officiel du réseau Badgeons la Normandie, et vendredi c'est une formation action où le matin on va retrouver à peu près le format qu'on a eu aujourd'hui, c'est-à-dire des présentations d'Éric, de Serge et de François avec la partie théorique. Et l'après-midi, on rentre dans la pratique, c'est-à-dire qu'on va expérimenter l'implémentation des badges sur une plateforme, la conception de formulaires, tester des méthodes d'émission, de validation, pour qu'à la fin, les personnes participants sortent avec une attestation numérique, donc sous forme de badge, de badgeuse ou badgeur. Et on sent que ça répond à un besoin, puisqu'on a 125 personnes qui seront présentes, enfin inscrites, et qui ont demandé à participer demain pour être formées. Et donc je termine ici sur les actions prévues par le réseau à court terme. Donc continuer à former des badgeuses et des badgeurs, concevoir des parcours de formation illustrés par des badges, réfléchir ensemble au développement de services, ça c'est grâce à l'appel à projet FEDER dont tu as parlé, juste avant, très rapidement. Et puis surtout, produire une démarche documentée et transférable à d'autres territoires, parce qu'on est très sollicité par les autres territoires, parce qu'on a été les premiers en Normandie à commencer sur ces sujets. Donc beaucoup de territoires ou d'organisations nous appellent pour savoir comment on a fait, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut partager. Et on va élargir ça au niveau francophone en travaillant avec Serge et nos partenaires de réseau Badgeons la Normandie et le CRI de Paris pour incuber la future association francophone Reconnaître, qui visera à venir en appui de toutes les initiatives autour de la reconnaissance. Donc on espère avoir une réponse positive pour l'appel à projet FEDER, parce qu'on veut développer des services avec les badges, avec les futurs bénéficiaires, dans une démarche Living Lab. Et je termine sur cette diapo. D'après nous, les facteurs clés de réussite pour un projet Open Badge sur un territoire, donc instaurer une culture de la formation tout au long de la vie, c'est pas encore clair pour tout le monde. Que ça soit multisectoriel, il faut travailler horizontalement entre tous les partenaires, que ça soit académique, associatif, interprofessionnel. Avoir une approche territoriale, parce que si on parle employabilité et tout ça, il faut qu'on ait les collectivités avec nous. Et puis, travailler en approche complémentaire. On n'est pas l'un contre l'autre, c'est pas les badges contre les diplômes, mais on travaille ensemble pour donner plus de valeur, en fait, à la personne. Hein, c'est ça que ça veut dire à la fin. Merci.
Merci, merci Philippe. Donc, si vous vous intéressez au badge, vous aviez déjà compris que vous êtes au bon endroit en Normandie, mais je vous dirais en plus que vous êtes à la bonne semaine, vu que c'est la semaine des badges, que ça foisonne de tous bords. Là, donc, c'est the place to be. Quoi, hein, donc,
Normandie, terre de badge, j'ai trouvé ça bien.
Voilà, Normandie, terre de badge.